Donc, nous allons avoir le plaisir d'écouter maintenant Monica Heller, qui est à la fois anthropologue et linguiste. Elle est professeure à l'Université de Toronto et elle est nommée conjointement au département de justice sociale en éducation et au département d'anthropologie. C'est une habituée de la revue Langage et Société pour avoir contribué souvent et dirigé des numéros. Et ses travaux portent sur, alors notamment sur le Canada francophone et l'Europe de l'Ouest. Et elle s'intéresse aux pratiques et aux idéologies langagières et sur la façon dont celles-ci participent aux inégalités sociales et aux constructions identitaires. Je parle sous ton contrôle, hein, Monica. Et Monica Heller développe pour cela une approche critique qui accorde une place importante à la dimension politique et économique des faits et des processus en question. Alors, je ne vais pas passer en revue les nombreux ouvrages et articles écrits par Monica. Simplement, je préciserai que prochainement, ou déjà, je pense, tu es responsable de la rédaction de la revue Journal of Sociolinguistics. Voilà.
Merci beaucoup. Alors à toi. Merci beaucoup. Merci à Josiane pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Et pour moi, plus ou moins la raison, c'est que quand Josiane me demande de faire quelque chose, je dis oui. C'est très simple et ça donne toujours des expériences super stimulantes et intéressantes. Est-ce que je parle assez fort? J'ai pas tendance à parler fort, donc... Vous me ferez signe si... Mais c'est un peu plus fort. OK, je vais essayer de faire... Je vais faire un effort. OK. Donc, je vais aborder ma tâche un peu de manière de côté, de manière un peu différente par rapport à ce que ma collègue, Mme Amossi, a fait aujourd'hui. Et en fait, je ne vais pas commenter directement le numéro de la revue tel qu'on m'avait demandé. Désolée, je ne suis pas très sage. Mais plutôt, j'aimerais partager des réflexions que la publication de ce numéro a suscité chez moi sur différents plans, notamment et surtout sur la question de l'anniversaire. Donc, Josiane en a parlé un peu ce matin pour ceux qui étaient là, mais la question de qu'est-ce qui s'est passé il y a 40 ans, pas seulement pour comprendre cette revue et l'anniversaire que nous fêtons aujourd'hui, mais aussi plus généralement en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord surtout, qui a fait qu'on a eu droit à l'institutionnalisation d'un champ qu'on appelle variablement sociolinguistique, en Amérique du Nord aussi anthropologie linguistique. Je vais probablement utiliser les deux termes et de manière plus ou moins interchangeable, même si je devrais probablement pas. Et donc, réfléchir un peu à ça, réfléchir un peu aussi à la manière, je ne sais pas si c'était vrai pour Josiane et sa cohorte à l'époque, mais pour moi, en tant que jeune doctorante, plus ou moins à ce moment-là, aux États-Unis, sur la manière dont nous avons vécu cette période comme une période justement de nouveauté, d'innovation, de création, aussi de contestation de l'hégémonie chomskyenne, très très forte aux États-Unis à l'époque, mais d'imagination de d'autres manières de faire. Et j'aimerais revenir aussi sur cet aspect affectif, si vous voulez, affectivo-idéologique, pour remettre en question dans quelle mesure est-ce que le fait que nous fêtons en ce moment les plus ou moins 40 ans, 50 ans de, je me trébuche tout le temps sur ce mot, l'institutionnalisation du domaine en Amérique du Nord comme en Europe, dans quelle mesure est-ce que ça veut dire aussi que c'était quelque chose de nouveau? Et donc des recherches que j'ai menées dernièrement avec une collègue à l'Université de Toronto, Bonnie McElhenney, qui donnera lieu bientôt à la publication d'un livre, me fait croire que non. Et j'aimerais peut-être parler un peu sur cette question-là. Également, j'aimerais raconter un petit peu comment la discipline s'est construite aux États-Unis, surtout, et les liens entre les États-Unis et la France. Il y a le Canada qui est dans le mix en quelque part, on pourrait éventuellement en parler. Mais il y a des comparaisons, je crois, intéressantes à faire en ce qui concerne la manière dont les intérêts derrière la structuration de cette discipline ou de ces variantes de la discipline. Et donc, j'ai des questions à soulever, des raisons pour lesquelles ça aurait pu avoir été un peu convergent, mais aussi assez différent dans les deux espaces. Mais évidemment, on continue à en parler. Je suis là, dans le sens, pour ça. La question des passerelles est également une question intéressante et importante, en partie à cause de certains thèmes qui ont été aussi soulevés ce matin, en ce qui concerne la question à savoir, c'est qui contrôle la production du savoir? Donc, c'est qui décide qu'il va y avoir un champ? C'est qui décide qu'il va y avoir des revues? C'est qui décide qu'on va publier ça et pas ça? Et c'est qui décide qu'on va publier en français et en anglais et peut-être pas dans d'autres langues? Et en ce moment, surtout, qu'est-ce qui décide qu'on va publier en anglais? Tout le monde d'accord? Et la situation dans laquelle ça me met, très personnellement, en tant que très prochainement rédactrice en chef d'une des revues anglophones principales dans le domaine. Bon, bref, ça c'est un peu mon plan de match. Alors, si je commence avec, donc, qu'est-ce qui se passait dans les années 60-70 en Europe et en Amérique du Nord, je pense que c'est super important. Ben, vous avez évoqué mai 68. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, j'ai envie de dire « ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? » Quelqu'un a mentionné, je pense que Monsieur Viavoca a mentionné le fait qu'en France, à l'époque, c'était très important d'être organisé autour de courants de pensée marxiste ou structuraliste. Ben, vous pouvez peut-être imaginer qu'aux États-Unis, à l'époque, s'afficher marxiste, ça se faisait pas. Donc, déjà, il y a la question à savoir, donc super intéressant pour moi, à savoir qu'est-ce qui a fait que, en France, il y a le Parti communiste, le marxisme, qui ont pu avoir été des institutions structurantes et avec une influence. Et aux États-Unis, la chasse aux sorcières communistes de l'après-guerre dans les années 50 a eu son effet et a réussi de manière très efficace à empêcher toute possibilité de mentionner le mot Marx et encore moins le mot de Lénine ou autre chose. Donc, Parti communiste, absolument pas. Et justement, avec Bonnie, on a eu un collègue anthropologue, David Price, a partagé avec nous des archives du FBI qu'il a demandé sur les interrogatoires que le FBI a fait avec des anthropologues pendant les années 50. Et vous ne serez pas surpris de savoir qu'il y a eu des linguistes qui ont été pris dans les mailles. Il inclut Roman Jakobson. Donc, on a eu droit à des 1000 pages de dossiers sur Roman Jakobson et aussi sur les commentaires des plus jeunes linguistes et anthropologues linguistes dans son entourage, surtout à Columbia et à Harvard, et notamment de Delhimes, un des fondateurs de la discipline, qui parlait très ouvertement du fait qu'avec tout ce qui se passait autour de Harvard, à laquelle Jakobson était à l'époque rattaché, avec un directeur de département qui dénonçait des collègues au FBI, que évidemment il fallait faire très très attention à ce qu'on avait comme livre dans son bureau et à ce qu'on disait ouvertement. Donc il y a une ambiance tout autre en Amérique du Nord, quoique en même temps on vit les différents aspects de ce qu'on pourrait peut-être appeler les premiers pas, les premières étapes vers une décolonisation. Une décolonisation, je n'ai pas besoin de vous le rappeler, toujours en cours, un renouveau actuel, et qui a eu aussi sa contrepartie, je pense, en France pour des questions de classe sociale et aux États-Unis pour des questions de droits civils, notamment pour les droits des Américains de race noire, mais aussi le mouvement féministe. Donc, Les questions de colonialisme, si vous voulez, externe et interne, étaient quand même des questions importantes. Ceci dit, je crois que ce qui a vraiment été au cœur de l'entreprise aux États-Unis, c'était non seulement la guerre froide et les activités du FBI, mais en fait, un autre aspect, si vous voulez, de la guerre froide, c'est-à-dire les activités de développement international. Donc, un des terrains de la guerre froide, c'était le terrain avec des pays en voie de décolonisation pour savoir qui allait avoir l'emprise sur l'Afrique, sur l'Asie, sur l'Amérique latine. Ça se jouait par le biais de l'invention en sciences politiques. Je ne sais pas si vous avez ça ici, mais aux États-Unis, ça s'appelait Area Studies, c'est-à-dire le développement, surtout incité par les sciences politiques, mais aussi par l'anthropologie et l'anthropologie linguistique, peu l'histoire aussi, des domaines de spécialisation dans des zones géographiques du monde où le savoir, les expertises de terrain étaient très important pour des questions de sécurité, mais très important aussi pour des questions de développement. Et dans la voie du développement international, il y avait des zones critiques, si vous voulez, des zones comprises comme étant particulièrement importantes en ce qui concerne le conflit avec l'Union soviétique, dont par exemple l'Inde, aussi les Philippines, l'Asie du Sud-Est de manière générale et quelques régions de l'Amérique latine, la Bolivie par exemple. Alors, on avait tendance à se concentrer sur ces régions-là. Et quand je dis « on », c'est en partie le département d'État des États-Unis, le gouvernement américain, la diplomatie américaine, mais aussi tout un développement intellectuel financé par les fondations privées, notamment les fondations Rockefeller et Ford. Donc, énormément de programmes financés par ces deux fondations-là. Rockefeller déjà avait été approché après la Première Guerre mondiale par les associations professionnelles, les historiens, les anthropologues, les politologues et je pense les économistes, pour créer quelque chose qui s'appelait le Social Science Research Council, Conseil de recherche en sciences sociales. L'idée était d'utiliser les fonds de la Fondation pour donner des assises financières et des espaces d'échange, des échanges aussi interdisciplinaires en sciences sociales pour ces disciplines-là. Donc, c'était une structure qui était déjà en place, qui avait été mise en place entre les deux guerres. Et ce comité-là était chargé d'imaginer quelles étaient les interventions ou les développements intellectuels les plus importants en sciences sociales, vu les besoins de l'époque. Alors, ce qui s'est passé dans les années 50, c'était que d'abord le comité le conseil a mis sur pied différents comités. Le conseil était toujours permanent mais avait le droit de créer des comités spécialisés sur des domaines spécifiques chargés de développer la sous-discipline ou des zones interdisciplinaires jusqu'à ce qu'on considère que leur job était fait et on fermait boutique et on ouvrait d'autres. Donc, dans la foulée de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fondé le comité de psycholinguistique, surtout pour des questions de compréhension de propagande, aussi en l'occurrence de marketing, mais pour essayer de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser le discours, les outils communicatifs, pour convaincre idéologiquement. Durant les années 50, donc il y a ce comité-là qui fonctionne, Et la fondation, les deux fondations, Rockefeller et Ford, en même temps, mettent sur pied des programmes dans les pays clés, et celui qui est le plus important probablement pour mes propos aujourd'hui, c'était l'Inde. Alors, les raisons pour leur intérêt étaient partiellement stratégiques, mais partiellement aussi des pays où on considérait que ce serait difficile. L'idée était de moderniser ces pays, c'est l'idée de l'aide à développement international, par le biais d'infrastructures de toutes sortes, mais aussi par le biais d'une infrastructure de ce qu'on comprenait comme étant un État moderne, c'est-à-dire un État avec un territoire bien délimité, avec une seule langue officielle. Alors, évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire ici, c'était un problème dans les ex-colonies, et notamment dans des pays comme l'Inde, où les États-Unis, certainement, considéraient que le plurilinguisme de l'Inde était un problème, était un obstacle. Alors, ils ont envoyé des linguistes et des anthropologues en Inde pour étudier le plurilinguisme indien, pour pouvoir former des Indiens à prendre en main leur propre politique linguistique et les institutions, notamment éducationnelles, qui en découleraient. Ils incluent non seulement l'école proprement dite, mais la formation postsecondaire pour pouvoir former des gens dans des disciplines considérées comme étant des disciplines importantes pour un État moderne. Alors, vous vous rappelez peut-être, il y a combien d'années de ça, qu'on a publié un numéro sur Gumpers? En 2 ans?
Ben, c'est continuellement.
Hein. C'est ça, donc 2 ans, 3 ans? Non.
En
2013, non. Et, ouais, 2013, voilà. Oui. 3-4 ans, on va dire. Et sur la page couverture, il y a une photo de Gumpers, justement en Inde, en 1955. Alors, il faisait partie d'une équipe de chercheurs envoyés là pour cette raison. Et il est retourné par la suite à plusieurs reprises pour faire des écoles d'été de formation de linguistes avec des acteurs importants comme Charles Ferguson, comme Murray Amino et comme William Bright. Et de plusieurs points de vue, j'aimerais avancer l'argument que le début de la sociolinguistique ou l'anthropologie, l'ethnographie de la communication, si on peut l'appeler comme ça, aux États-Unis, c'était en fait né en Inde dans les années 50, dans le cadre d'une structure de développement international qu'on ne peut pas comprendre en dehors de la guerre froide. Et on a donc par la suite des acteurs qui retournent aux États-Unis dans un États-Unis tu par l'activité du FBI. Et c'est vraiment ce terrain-là qui donne naissance à la sociolinguistique nord-américaine. Alors, la prochaine chose que les fondations font, que le Conseil de recherche en sciences sociales fait, c'est qu'ils demandent justement à ce groupe et quelques autres collègues, c'était Ferguson qui était le premier directeur, de former un nouveau comité, cette fois-ci le comité de sociolinguistique, qui est né au début des années 60, avec Ferguson à la tête du comité, avec Gumpers, avec Bright, et avec d'autres acteurs, avec Labov aussi, et avec aussi une volonté d'interdisciplinarité ou de transdisciplinarité que j'évoque exactement parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et je trouve que c'est important de se rappeler qu'il y a eu cette tentative très explicite dans les années 60. Et si vous retournez au recueil fondateur, notamment Directions in Sociolinguistics, il y a des psychologues là-dedans, il y a des sociologues là-dedans, il n'y a pas de neurologues là-dedans. Ça, c'était un peu avant la lettre. Mais cette tentative était très, 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 très présente. J'ai eu la possibilité de travailler un peu dans les archives et donc j'ai pu, on le pensait, mais c'est clair que la première revue, donc Language in Society, est née des travaux de ce comité on Sociolinguistics. Ce que je trouve intéressant en partie pour nos discussions de passerelle, et je ne sais pas quoi faire avec ça, c'est que dans ce sens, quand je pense, Arjuna Padra dit tout le temps, il faut suivre les gens, il faut suivre les ressources, follow the money. C'est que en France, vous avez quand même le Parti communiste. Aux États-Unis, il y a la Fondation Rockefeller, c'est comme marxiste. Rockefeller, évidemment, ça, tu peux pas être plus capitaliste que ça. Donc, il y a quelque chose d'intéressant à réfléchir, à discuter là-dedans. Mais c'était aussi un comité fermé, c'est-à-dire qu'il fallait être invité. C'était le conseil qui invitait les premiers membres et c'était les membres qui invitaient d'autres membres qui se faisaient remplacer quand ils pensaient que c'était important. Vous n'allez pas être surpris d'apprendre que pendant très longtemps, il y avait une seule femme, c'était Susan Irvin Tripp, et ça a pris à peu près 10 ans pour avoir une deuxième femme, c'était Gillian Sankoff, dont Josiane a... que Josiane a mentionné ce matin. Et je trouve ça intéressant aussi que Gillian est arrivée ici à peu près au moment où son travail, le travail du comité de sociolinguistique, terminait. Ça a terminé grosso modo en 77. Donc, il y a une sorte de chevauchement. Le comité a aussi envoyé en mission en France Joël Scherzer pour savoir qu'est-ce qui se passait. Il est venu, il a rencontré des gens, il a rencontré en crevé, par exemple. Il est revenu faire son rapport. Alors, c'était quand même un réseau assez clos, avec des moments d'ouverture sous forme d'école d'été, par exemple. La revue Language in Society est née de ça et Ferguson avait été remplacé par Del Himes à un moment donné dans les années 60 comme chef de ce comité-là. Le comité a terminé donc vers la fin des années 70 et l'institutionnalisation a été déjà plus ou moins acquise, rendue la fin des années 70, début des années 80. Alors ça, c'est la première série de commentaires avec lesquels je veux soulever la question à savoir quelles sont les questions qui nous restent à poser pour comprendre qui a investi dans ce domaine et pour quelles raisons. Après, bon, qui en a fait quoi? Qu'est-ce qui explique, par exemple, le fait que la volonté de transdisciplinarité des débuts de ce comité n'ont pas en fait porté fruit. Alors là, j'ai un élément de réponse empirique. Il y a une des choses qui a fait dissoudre, à mon avis, le comité, c'était une tentative d'expérience d'empirie transdisciplinaire menée par Alan Grimshaw de Indiana University, un sociologue, qui a voulu utiliser des données. Probablement vous appellerez ça du corpus, mais c'était un film d'une soutenance de thèse dans son université. Et son idée était qu'on allait donner ce film à des linguistes, à des anthropologues, à des interactionnistes, à des symbolistes, à des sociologues, et chacun allait commenter. Donc Goffman en a commenté, Gumpers a commenté, et Labov en a commenté, et c'est là où tout a éclaté, devant l'impossibilité de faire une analyse commune. Et Grimshaw s'est trouvé seul, en fait, à mener l'exercice lui-même. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé là, de bris intellectuel, épistémologique, si vous voulez. Et les espaces de discussion qu'il y avait eu avec le comité ont été aussi, en même temps, perdus. Il y a aussi, je crois, quelque chose qui s'est passé dans la divergence entre les Laboviens ou Labov lui-même. Himes dit dans une lettre, « Bill wants to take over TG. Bill wants to take over transformational grammar. » Bill n'a pas réussi à faire ça. Mais ça a été clair dès le départ que pour lui, l'activité est une activité de linguistique. Une prise de position qui n'était pas partagée par ses collègues. Et donc, il y a vraiment un bris qui se fait à ce moment-là entre, si vous voulez, les gens en sciences sociales intéressés par des questions sociales et des gens en linguistique intéressés par des questions linguistiques qu'on n'a toujours pas réussi à penser. Alors, une des questions que j'aimerais soulever pour nous, c'est de savoir quelles leçons on en tire, mais comment ça se fait que maintenant, 40 ans plus tard, on revient à cette question de passerelle, on revient aux besoins ressentis à l'époque, et quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de leur expérience pour savoir pourquoi on le ferait, quel intérêt on a, nous, à faire ça, avec quels objectifs, et de quels outils on dispose et quels sont les intérêts derrière ces outils-là. Donc, je suis rendue où là? 10 minutes, parfait, excellent. Alors, peut-être deux points. Alors, je trouve ça également intéressant que Himes a fait très exprès pour appeler sa revue « Language in Society ». Vous assumez langage et société. Ils étaient discussion en 72.
On a discuté si c'était en ou et. On l'a discuté.
Si d'accord. Donc il y a l'option in, on a l'option et dernièrement, on a commencé à parler dans la littérature anglophone, en tout cas, language as. Je ne vais pas rentrer dans tout le débat translanguaging, je pense qu'on pourrait... Hein? Mais voilà, il y a des choses intéressantes à dire, retourner justement à des questions du langage comme, si vous voulez, pratique sociale, soulève encore le problème des conjonctions et des prépositions. Donc, l'opération, si vous voulez, saussurienne de déconnecter le langage la société ou de d'autres formes de pratiques, qui faisait sens pour différentes raisons à son époque, qui faisait totalement sens pour l'engouement, pour la traduction, la machine translation durant les années 40 et 50, l'option technologie à des fins de l'état de sécurité, sont toujours d'actualité, à mon avis. Les dangers potentiels dans la réimbrication du langage dans les pratiques sociales sont toujours aussi réels. Donc, je pense qu'on a intérêt aussi à examiner qu'est-ce que ça donne, quelles sont les opportunités, mais aussi peut-être quels sont les dangers de repenser nos disciplines dans différents items de coordination. Deuxième question, c'est justement la question de savoir dans quelle mesure on fait ça dans une tentative consciente ou inconsciente de politiser ou de dépolitiser. Je dirais que en Amérique du Nord, et pas uniquement aux États-Unis, alors là, je pourrais en parler pour le Canada pendant très longtemps, il y a des raisons pour lesquelles c'était super important de dépolitiser l'activité sociolinguistique. On ne le disait pas comme ça, on ne le dit pas comme ça, mais la construction du savoir neutre objectif expert pour intervenir dans les questions de politique a été super important pour des raisons politiques. Et donc, c'était possible de maintenir une position, à mon avis, fausse, d'être neutre ou apolitique, en faisant des travaux qui, en fait, étaient très instrumentalisés et étaient financés pour être instrumentalisés à des fins politiques. Tandis que là, pour toutes sortes de raisons que je pourrais développer, on ne peut plus se permettre cette position-là. On doit assumer une position d'intéressé, ce qui nous demande non seulement une réflexivité, mais une réflexivité imbriqué dans une conscience des enjeux politiques, des enjeux de pouvoir, de notre propre activités et nos responsabilités, non seulement les uns envers les autres, mais envers les autres intervenants dans les domaines qui nous intéressent. Et donc, on est appelé non seulement à repenser cette position, mais ça a toutes sortes de conséquences. Ça a des conséquences théoriques, ça a des conséquences méthodologiques, ça a des conséquences énormes de formation. Et ici, je terminerai peut-être. Il y a quelques années, on m'a demandé de faire un manuel de cours en anthropologie linguistique. Ce genre-là, c'est un genre canonique. Voici le champ et voici comment on le fait. Je me suis rendu compte que j'étais dans l'impossibilité totale de faire ça parce qu'on est dans des conditions historiques qui demandent vraiment de repenser et que le premier travail qu'il fallait que je fasse, c'était de commencer à défricher, débroussailler ce qu'on n'a pas demandé, ce qu'on n'a pas vu parce qu'on n'a pas regardé, afin de pouvoir regarder avec un autre regard, dans un autre, avec un autre cadre de référence. Bon, je vais terminer là, peut-être. Et,
Merci. Voilà. Même, merci beaucoup, Monica. Tu as même terminé avec de l'avance, donc on a du temps maintenant pour les débats.
Juste une remarque sur un aspect de votre exposé, sur la question de la critique et des engagements politiques des chercheurs. En fait, dans le réseau DiscoursNet, on a eu des échanges entre linguistes et sociologues politistes depuis très longtemps. Et ça, c'est l'une des deux, trois grandes questions sur lesquelles on bute tout le temps. Et je pense que cette question d'objectivité, souvent, il y a un malentendu là-dessus. Je pense que cette idée d'une science sociale objective et positiviste, c'est assez désuet et personne n'y croit. Par contre, une science qui prend voilà, des positions moralisantes avec voilà, des visées explicites, politiques, ça fait mal à l'aise aussi un peu. Et je pense que toute cette discussion depuis Weber sur l'objectivité des sciences sociales, on peut la comprendre peut-être plutôt comme une crise de l'autorité scientifique plutôt que le retour vers une science moralisante. Et de ce point de vue, le retour ou le tournant vers l'acteur va de pair avec cette idée que la science n'a plus vraiment le monopole sur les grandes questions normatives et politiques, mais voilà, on fait partie de la société tous, et du coup, c'est impossible d'être neutre et objectif, bien sûr. On est impliqué dans ces jeux tout le temps, mais en même temps, on ne peut pas vraiment réclamer cette position supérieure depuis laquelle on peut voilà, juger voilà, les acteurs. Et il s'agit plutôt de donner la voix à ceux qui sont voilà, dans ces luttes normatives tout le temps.
Merci. Quelques réactions, si vous voulez, sur le vif. Alors, premièrement, alors là, je vais parler plus de mon expérience canadienne. Et là, je m'excuse, mais c'est juste pas vrai que plus personne croit à l'objectivité scientifique. C'est juste pas le cas.
Les sciences sociales américaines ou nord-américaines sont plus voilà, dans
ce... mais je parle pas nécessairement des collègues en sciences sociales, d'accord? Donc, premièrement, il y a ça. Et deuxièmement, on est interpellé par d'autres formes d'acteurs qui viennent vers nous. On m'appelle tout le temps, pour mon expertise. Alors, il faut que je fasse les premières 5 minutes de l'entrevue pour expliquer que voici le genre de savoir que je peux partager ou que j'ai envie de partager. Mais la pression sur nous d'agir en tant qu'expert, en tant qu'experte, en tout cas pour des questions de politique langagière, de politique éducative, c'est énorme. Donc, primo. Aussi, je dirais, entretient des structures aussi scientifiques de production d'expertise. de ce genre. Notamment, juste pour parler de mon petit coin de pays, pour la démographie linguistique, par exemple. Alors, les gens qui font la politique linguistique, faut que ce soit statistique. Si on me regarde puis on me dit, mais ça nous prend nos indices. T'sais. Alors, tu commences pas avec eux une conversation sur c'est quoi des indices, puis sur quelle base épistémologique ça repose. Okay? Donc, premièrement. Deuxièmement, ça a été fortement le cas en anthropologie nord-américaine, la critique du domaine comme étant un domaine colonialiste, donc manque de légitimité totale, remise en question, ok, vrai, mais est-ce que ça veut dire qu'on abandonne, parce que ça c'est absolument une option parfaitement honnête, ou est-ce qu'en fait il y a quelque chose qu'on croit important? Alors, depuis les années 80, il y a eu ce tournant. Ça a pris 10 ans à peu près avant que les gens retournent. Rabineau a été un des acteurs principaux de ça. Avant de pouvoir retourner et dire, mais non, attends, on a quelque chose à dire d'important sur des affaires, tu sais, sur des affaires qu'on vit et on a des outils intéressants. Ça ne veut pas dire que ce sont de meilleurs, c'est pas les seuls, c'est pas forcément les meilleurs parce que scientifiques, mais c'est des outils avec une valeur et on veut et on revendique notre part de notre participation dans la conversation. Ce qui m'amène à votre dernier commentaire. Par contre, ce n'est pas notre job de donner la voix à personne. Nous, on doit assumer notre voix. C'est notre voix à nous. D'autres, de plus en plus, assument parfaitement bien la leur. Merci beaucoup. Et de plus en plus aussi, on est invité à créer un peu d'espace, s'il vous plaît. Tassez-vous, il y a la place. Donc, c'est plutôt une question d'avoir une réflexivité sur notre position de locuteur, si vous voulez. Dans un espace discursif, un espace conversationnel, habité par plein de monde, avec un paquet d'intérêts, pas forcément les nôtres. Mais c'est ça, le nerf de la guerre, je dirais.
Bien. Josiane?
Je te remercie. Vous m'entendez ou faut que je me retourne peut-être quand même? Ouais, c'est peut-être mieux quand même. Je te tourne le dos, du coup. Bon, je vais parler plus fort. Je pense que ce que tu nous as dit, je te remercie. Et j'ai toujours pensé que une histoire conjointe et comparée de la naissance de la sociolinguistique en Europe, enfin en France en particulier, et aux États-Unis, Canada, serait vraiment à faire. Et on voit à quel point... ce que tu nous as dit montre que le terreau dans lequel c'est né n'a rigoureusement rien à faire, puisque nous, on est les enfants, les petits-enfants d'une institution qui s'appelle le CERM, le Centre d'études et de recherche marxiste, qui était le lieu où tous les intellectuels, tous les universitaires qui sont nos pères, en quelque sorte, nos maîtres, sauf Martinet, parce qu'il était de droite, mais pour tous les autres. Ben oui.
Il était aux États-Unis. En train
et puis il était, de toute façon, à Columbia. Non, mais il est rentré en 56, hein, donc il était... En 56, le CERM a été créé à la Libération, si tu veux, bon, dans la grande époque de la Libération où le Parti communiste participait au gouvernement. C'est quand même pas les États-Unis, hein. C'était pas le macartisme. Donc, il crée le CERM où vont participer tous les linguistes qui vont faire la linguistique, hein, voilà, général et appliqué, tout ce que tu veux, dont le français fondamental, etc. Et puis, il y aura Marcel Cohen. Marcel Cohen, c'est lui qui a dirigé le CERM de main de maître, semble-t-il. Moi, j'y étais pas, mais d'après André Traboré-Keller, de main de maître, c'est lui qui faisait tous les ordres du jour. Personne d'autre ne les faisait dans la section linguistique du CERM, parce qu'il y avait les sociologues, les physiciens, les chimistes, les archéologues. Bon, il y avait toutes les sections intellectuelles dans le CERM. Et c'est Marcel Cohen qui dirigeait la section linguistique. Et Marcel Cohen, comme on l'a montré, alors j'ai vérifié, c'est 2009, hein, le numéro que j'avais fait André Tabouret-Keller. Marcel Cohen, pour nous, c'est vraiment le grand-père, le père, comme on veut, de la sociolingue française, que d'ailleurs Martinet... c'est très compliqué, parce que Martinet le savait parfaitement. Hein, il ne pouvait pas le blairer, parce que Marcel Cohen avait créé une session CGT à la Sorbonne. CGT à la Sorbonne, hein, en 55. Donc André Martinet regardait cet être de, voilà, d'une drôle de façon. Bon, il considérait que c'était bon. C'était, mais n'empêche qu'il le donnait dans les bibliographies. Personnellement, j'ai été l'élève de Martinet et c'est comme ça que j'ai connu Cohen, dans la bibliographie de Martinet. Hein. Donc si vous voulez, c'est quand même très compliqué la position de Martinet. Hein. Et donc je pense que là, on aurait en tous les cas une histoire avec des moments de croisement. Le fait que Martinet fut le directeur de thèse de Labov, que tous les deux viennent de la dialectologie. Enfin, il y a une histoire à faire conjointe, comprendre la part de la dialectologie, la part de l'idéologie marxiste, si tu veux, sur les deux tendances, et qui serait vraiment, je pense, quelque chose de tout à fait passionnant, un peu dans ce qu'a fait James Costa dans le numéro 160-161, où il a travaillé sur la réception, justement, des théories d'archéologie, d'anthropologie du langage de Chicago, en France, en Europe.
Le seul, peut-être que j'ai mal compris, mais le seul chose que j'aurais envie de dire, c'est que je ne suis pas d'accord sur le fait que le terreau n'est pas important. Je dirais que le terreau est en fait excessivement important.
Non, c'est
pas, ah, c'est pas, oui, mais ça a un impact énorme.
Ouais, c'est ce
oui, c'est ça, d'accord. Okay, on se
c'est juste absolutement pas le même. Enfin, vous êtes dans le macartisme,
oui,
mais nous, on est avec le Parti communiste,
oui, exact,
3 millions
exact,
d'adhérents,
exact,
et qui gagnent toutes les élections.
Exact.
Oui, tu vois.
Oui,
oui. Voilà.
Oui.
Et qui est au pouvoir jusqu'en 49, donc quand même.
Alors, merci. Si j'ai bien compris, en fait, tu nous invites à re-réfléchir sur le lien entre langage, société, etc., tel qu'il avait été déjà pensé. Tu nous invites à le repenser aujourd'hui. Il y a quelque chose qui m'embête un petit peu dans ta proposition, c'est que c'est un petit peu comme si le concept de société lui-même était resté stable alors qu'on avait échangé sur... Ce matin, on a parlé de Donna Haraway, on a parlé de Latour, et ces sociétés me paraissent finalement extrêmement humaines. Et il me semble qu'aujourd'hui, s'il y a un endroit où, et le dernier livre que vous avez fait aussi pose la question du réchauffement climatique, et on est dans des sociétés qui sont bien plus complexes, où les questions langagières vont au-delà de l'humain, on en a un peu parlé ce matin. Récemment, il y a deux ordinateurs qui se sont mis à parler ensemble sans que des humains comprennent et qui ont été débranchés par Facebook, si j'ai bien compris. Enfin... Du coup, on est dans des sociétés qui sont, je pense, la notion même de société n'est plus la même que celle des années 60. Donc je ne sais pas comment tu vois une sociolinguistique de cette société-là, tu vois.
Celle-ci ou celle-là ?
Celle-là.
Là, d'accord. Oui, non, c'est... si j'ai parlé davantage des idéologies, de qu'est-ce que c'est que le langage, ça c'est une chose, mais évidemment, la même chose absolument est vraie pour société. Si on va... dans un sens, je vous invite pas à le faire. C'est en train de se faire sans que, tu sais, je pourrais rester chez moi, ça se ferait pareil. Qu'il y a quelque chose qui fait que, en ce moment, on remet en question les manières de créer des ensembles uniformisés avec des frontières peut-être pas claires, mais qui donc étaient des problèmes à examiner, comme si la dialectologie existe parce que il fallait demander c'était quoi la limite. Bon. Donc ça pose ses propres. Une fois que tu poses les bases, après ça crée ses propres problèmes. On est en train, justement, de repenser ces bases-là vers, c'est Lucas qui l'a dit tantôt, vers quelque chose de plus flou. Monsieur Viavoca parlait de liquidité. Je pense que probablement, il y a des critiques de ces concepts-là qui sont valables, disant, ben, attends une minute, il y a des affaires qui ne bougent pas aussi. Hein? Donc, c'est pas tout le monde qui a le droit de bouger. Il y a des gens qui sont obligés de rester sur place. Donc, la question est plutôt, dans un sens, pour moi, une question empirique, c'est-à-dire d'essayer de découvrir qu'est-ce qui est en train de changer et pourquoi? Quelles sont les conditions que nous vivons en ce moment qui nous obligent, dans un sens, de repenser les choses et quelles sont les manières de repenser qu'on est en train de jouer avec, nous, avec le restant de la gang, nous, avec les ordinateurs, nous, avec les poissons. Enfin bon, c'est...
Moi, ce n'est pas plutôt une objection, c'est plutôt une réflexion consolante, parce que finalement, ce que vous dites, c'est qu'on a deux terreaux totalement opposés idéologiquement, mais malgré tout, ce qui est extraordinaire, c'est que, au fond, à chaque fois, ce qui a donné l'impulsion n'est pas ce qui est à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dérive qui est propre, finalement, à l'institution scientifique, qui fait que, malgré tout, les convergences l'emportent beaucoup plus que sur les oppositions entre les intérêts de ceux qui m'ont impulsé, si je peux dire la chose. Donc il y a quand même une sorte d'équilibre extrêmement difficile entre une impulsion de départ et une logique. Bon, alors je ne sais pas à quoi ça tient. Est-ce que ça tient à une espèce d'épistémologie inconsciente? Est-ce que c'est lié aux institutions académiques elles-mêmes? Je ne sais pas, mais il y a quand même une inertie de la structure qui fait que malgré tout, aucune impulsion idéologique ne peut réellement prendre le contrôle d'une recherche. C'est quand même assez consolant, quelque part.
Oui et non. Je voudrais voir Josiane et moi, on est en train de faire comme ça. C'est-à-dire que ce que je trouve intéressant, et ce que j'ai trouvé super intéressant, ayant vécu cette période en tant que bébé sociolinguiste, c'était qu'il y avait des sujets que je ne pouvais pas discuter chez nous, qu'il fallait que je vienne en Europe pour discuter, et parfois l'inverse. Aussi, c'était très clair que il y avait certaines tentatives, je dirais, chez mes maîtres penseurs, mais qu'il fallait qu'ils fassent attention dans un sens. Donc, tu trouves quand même s'il y a des difficultés, des obstacles, tu trouves des fois les places où tu peux le faire. Des fois, en traversant l'Atlantique ou en allant vers l'Amérique latine, tu trouves l'autre espace où c'est possible. Je me rappelle d'un commentaire d'un collègue d'Allemagne de l'Est, l'ancienne Allemagne de l'Est, arrivée au Canada quelques années après la chute du mur, pour dire il faut que je vienne au Canada pour parler des questions de classe sociale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Canada pour qu'on arrive à le faire? Tandis que, en fait, des questions de classe sociale, c'était pas ça. On pouvait parler des questions de race, d'ethnicité, mais pas des questions de classe sociale. Donc, tu peux naviguer, tu peux trouver des gens, passerelles aussi. J'aurais beaucoup de choses à dire sur la francophonie canadienne aussi, ce que ça veut dire être entre les deux, trois marchés, même britannique, français et américain. Comment différentes personnes d'entre nous, comment on a réagi à cette. Gillian en est un exemple important. Donc il y a quand même, oui, il y a des circulations, mais ce sont aussi souvent des circulations voulues. Et comme j'ai dit, quand le Committee on Sociolinguistics a envoyé quelqu'un à Paris, ils ont décidé où est-ce qu'il fallait aller pour voir qu'est-ce qui se passait. C'était pas à Londres, c'était pas à Tokyo, c'était pas à Mexico, c'était certainement pas Montréal, c'était Paris. Donc, il y a des circulations qui sont possibles, mais il y a quand même des contraintes dans le sens fort du terme.
Oui, moi je me posais une question en fait, hein, c'est pas vraiment un commentaire, c'est une question que je me pose en toute innocence. Tu disais, bon, les linguistes ont fait cette tentative de pluridisciplinarité, puis ça a échoué et on y revient. Et je réfléchissais en me disant, c'est vrai que c'est une question intéressante à creuser en contextualisant, mais du côté justement des autres disciplines auxquelles on fait référence, du côté des sociologues, des anthropologues, etc., et il faudrait cet éclairage aussi pour savoir comment ça s'est fait. Et moi, je vis cette expérience tous les jours au sein de mon laboratoire, puisque je fais partie d'un laboratoire pluridisciplinaire, mais en gros, je suis la seule linguiste. Enfin, il y en a une autre, mais elle est loin pour le moment. Et donc, j'ai l'impression de recommencer des discussions, effectivement, qui ont eu lieu il y a longtemps, à savoir, bon, alors on va se retrouver autour de notre axe de recherche, et alors, comment est-ce qu'on va faire pour trouver un dialogue commun, des concepts communs, un langage commun? À peine j'étais arrivée, on m'a dit tout de suite, parce qu'il y a bien de bien avec les linguistes, c'est qu'on ne comprend jamais ce qu'ils disent quand ils parlent. Bon, moi je pensais que c'était déjà loin tout ça. Alors voilà, comment est-ce que ces autres disciplines approchent justement ces questions? Est-ce qu'il y a les mêmes revirements? Est-ce que...
Bon, alors dans ma propre petite expérience, c'est dans mes coins de monde, je dirais que... On n'est pas les seuls dans notre discipline. Donc, je donne juste comme exemple, une collaboration que j'ai débutée avec des historiens et un géographe qui, eux, se sentent isolés dans leur discipline, mais on se retrouve autour d'une même série de questions concrètes. Donc, pour nous, la question concrète, c'est quoi cette histoire de la nation Canada francophone? Et comment ça se fait que tout ce qu'on voit nous amène à dire que ça a été construit de peine et de misère en effaçant un tas de choses super importantes? Nous, c'est les choses effacées qui nous intéressent. Pour comprendre, mais moi, j'avais besoin d'un historien, j'ai trouvé comme le seul. j'exagère un peu. Mais donc, il y a quelque chose qui se passe autour de questions, d'objets, je dirais peut-être, ou de terrains d'enquête, de questions, c'est ça, où pour répondre à la question, ça me prend des outils qui me dépassent, mais des fois, il faut chercher des collaborateurs pendant longtemps. Il faut savoir où les trouver. Donc, ils ne vont pas nécessairement se trouver dans mon département ou dans mon labo. Ils vont peut-être se trouver ailleurs. Et après, bon, c'est comment est-ce que tu fais? Bon, nous, on a trouvé la structure de la subvention de recherche pour nous créer notre espace. Après, on utilise les colloques pour faire des panels, pour créer notre espace. Ça m'amène à aller pour la première fois dans ma vie à des colloques d'histoire. J'ai mon historien qui me dit « J'ai jamais été dans un colloque de linguistique. » C'est correct. Donc, ça change aussi les acteurs, les espaces et les acteurs qui participent. Et c'est très petit pas, mais c'est des petits pas concrets. Et je pense que c'est comme ça que ça va se faire. C'est autour vraiment d'un travail empirique. Je pense que le problème qu'il y a eu dans la raison pour laquelle l'expérience a foiré au sein de ce comité, c'est parce qu'il n'y avait pas de questions. Il y avait des données. C'est très important. C'est très important. Exactement. Alors pour moi, c'est justement autour de la base épistémologique qui a fait que quelqu'un a pu supposer qu'il y a quelque chose qui s'appelle une donnée neutre, qui est analysable de différents points de vue. Et je pense qu'on ne ferait pas ça maintenant.
Il y a quelque chose qui a changé par rapport à cette expérience dont tu parles, c'est qu'aujourd'hui le paysage est quand même très fortement caractérisé par le paradigme de studies et qui bouleverse aussi les découpages disciplinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec les studies, effectivement les collaborations peuvent se faire entre des chercheurs qui viennent de l'histoire, des sciences politiques, de la linguistique, de l'anthropologie. C'est ce que je fais par exemple dans le champ des études de genre. Donc peut-être que je pense que les sociolinguistes et les discursivistes, ils doivent aussi se poser cette question-là, parce que c'est une question cruciale qui divise fortement en tout cas le débat en France. Il y a un clivage entre ceux qui disent que les studies sont en train de détruire les sciences sociales et qui le voient comme une sorte de danger aux méthodologies et aux objets que les sciences sociales ont construits pendant plusieurs décennies. Ceux qui disent que bon, il faut vraiment aller vers les studies, enfin, je pense que les sociolinguistes doivent se poser aussi cette question et se positionner, pour reprendre un terme que tu as utilisé.